Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Toute une crise chez Québec solidaire. La co-porte-parole féminine, Émilie Lessard-Terrien, qui a annoncé qu'elle quittait ses fonctions. Elle a fait une longue publication sur les réseaux sociaux. Et je vous en lis un extrait. 4 mois à peine ont suffi à m'épuiser complètement. Je suis parti en arrêt de travail fin mars, les deux genoux à terre, l'élan freiné. Salut Emmanuel.
Bonjour.
Et dans les explications, elle montre du doigt notamment une petite équipe de professionnels tissés serrés autour du co-porte-parole masculin, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a réagi là, d'ailleurs aussi sur X là, au cours des dernières minutes.
Gabriel Nadeau-Dubois qui réagit comme si Émilie Lessard-Terrien ne quittait que pour des raisons de santé. C'est très diplomate, c'est très politicien.
Il y a oublié un bout de l'histoire.
Oui, il n'y a aucune référence au cœur, je pense, de la raison pour laquelle l'ex-députée d'Abitibi démissionne à titre de co-porte-parole féminine après quoi à peine 5 mois. Là. Essentiellement, ce qu'on comprend, c'est que, sans prendre parti, parce que ni toi ni moi, on est à l'interne de QS, mais la greffe n'a pas pris. Et je veux dire, et elle n'a pas pris de manière assez... je dirais pas violente, mais assez imposante, parce qu'elle dit la vision différente que je proposais s'est heurtée à un blocage organisationnel au sein de ce parti créé pour faire de la politique différemment. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est que tout est contrôlé par une petite équipe autour de Gabriel Nadeau-Dubois. Le reproche étant qu'on n'a pas fait de place à la vision qu'elle proposait. Elle dit même qu'on l'a grondé, on l'a culpabilisé pour des prises de position sincères.
On m'a invalidé même. Moi, c'est un passage qui m'a marqué, Emmanuel. Un parti qui se dit très vertueux dans l'ouverture. On m'a invalidé.
Ouais, mais c'est très... Moi, je suis pas surprise de ça. Parce que le concept d'un co-porte-parole, là, c'est assez quand même, c'est assez obtus, là. C'est comme s'imaginer que tu peux diriger une organisation avec 2 PDG, là. C'est rare que ça fonctionne comme ça. Faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne des décisions, faut quelqu'un qui ait le dernier mot. Dans le concept du co-porte-parole, il n'y a personne qui a le dernier mot. Et Émilie Lessard-Terrien est arrivée avec une vision qui était la sienne, qui lui était propre et qui était celle que les membres qui ont voté en faveur d'elle portaient. Donc, qui a le plus de légitimité quand tu te ramasses dans un affrontement ou une discussion stratégique ou tactique? Est-ce que c'est elle qui vient d'être élue forte de ce mandat qu'elle a gagné, puis qui était quand même assez spectaculaire parce que personne ne s'attendait à ce qu'elle ne gagne, ou bien est-ce que c'est ceux qui sont en place et qui portent ce parti à bout de bras depuis le début? Je pense que cette espèce de conflit larvé qui durait depuis un certain temps et qui est maintenant exposé sur la place publique illustre à merveille toutes les difficultés internes de Québec solidaire en ce moment, qui est un parti qui ne s'est toujours pas remis de son résultat électoral très décevant et qui peine, je pense, à s'ajuster à un contexte où Gabriel Nadeau-Dubois est, depuis la dernière élection, le porte-parole dominant, si on veut, dans un monde qui n'était pas comme ça. Parce que... quand il est devenu co-porte-parole avec Manon Massé, il était le jeune qui devait gagner en crédibilité. Donc, il y avait comme une aura de sagesse, de le dernier mot venait, je pense, inévitablement à cette espèce de voix et de façon de faire la politique qu'incarnait Manon Massé, qui avait comme une genre d'autorité très douce, mais très forte et très naturelle sur le reste du parti. Et est-ce qu'il y a une division des tâches qui s'est faite naturellement entre ce militantisme bienveillant et les exigences d'une partie politique qui exige tactique, stratégie, manœuvre, etc.? Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre, là. Mais là, quand tu rechanges cette dynamique-là, c'est très, très, très... c'est de toute évidence très, très difficile. Puis ça illustre aussi à quel point C'est un parti qui peine à s'imposer et à se trouver une nouvelle place dans l'échiquier politique. Ce qui est clair, c'est que cette fracture bien publique va causer une crise importante à Québec solidaire. Là, parce que là, tu peux plus faire semblant que ça va bien. Tu peux plus faire semblant que ça marche puis que c'est une question de temps. Puis c'est d'autant plus cruel, je pense, pour QS. Puis tu vois que je fais bien attention de pas assigner des blâmes d'une part ou d'autre parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça puis que c'est pas notre place de faire ça dans ce contexte-là. Mais c'est que Québec solidaire a eu un bon hiver jusqu'ici. Tu sais, ils ont été très pertinents, très éloquents sur toute la question de la crise du coût de la vie, de la crise du logement, de toute la bataille parlementaire autour de la nouvelle loi sur la protection des locataires, la nouvelle loi sur l'agence santé. Je veux dire, c'est un parti qui fait un excellent travail parlementaire. Mais, si tu veux, ça lève pas. Il recule. Puis ils sont à leur plus bas depuis 2 ans. Puis non seulement ça, le Parti québécois est en train de commencer à aller grappiller sérieusement leur avantage incontesté auprès des jeunes.
Mais Emmanuel, est-ce qu'à un moment donné, Gabriel Nadeau-Dubois aussi va avoir des questions à répondre? On l'a invité ce matin en entrevue, il ne vient pas. Là, moi, je retiens la deuxième partie de son message quand il dit, vous le savez sans doute, Émilie était en arrêt de travail depuis la mi-mars. Emmanuel, c'est parce qu'il y a peut-être des raisons aussi derrière son arrêt de travail. Ces gens-là doivent s'expliquer. On a le communiqué laconique aussi là, de la présidente de Québec solidaire. Moi, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la décision d'Émilie. Ces gens-là ont des comptes à rendre. Ils ont des explications à donner sur leur façon de faire à l'interne.
Oui, moi je te dirais que la première personne à qui ils en doivent, c'est à leurs propres membres là, qui se réveillent ce matin puis qui voient comme leur parti.
Je comprends.
Parce que c'est vraiment une implosion.
Totalement.
De toute évidence, de toute façon, il pourra pas faire l'économie de répondre à des questions. Il était supposé être en point de presse plus tard en matinée avec Christine Labrie. Je vais t'avouer sincèrement, j'ai pas eu le temps de vérifier si celui-ci est toujours prévu. Il rentre à l'Assemblée nationale, mais est-ce que des fois comme politicien, c'est mieux de prendre 2-3 heures de plus pour encaisser le coup, réfléchir, que d'aller te garrocher sur la place publique? L'animatrice en moi et la journaliste partagent entièrement ton opinion, genre, qu'est-ce qu'il fait avec ses commentaires laconiques, etc. L'analyste politique en moi comprend qu'au sein du leadership, il y avait une obligation de répondre. Parce que le silence aurait été vraiment horrible et difficile. Mais il y a aussi une obligation de réfléchir et d'encaisser le coup parce que bien que la situation de Émilie Lessard-Terrien n'ait rien à voir avec celle de Catherine Dorion et de son essai coup de poing de règlement de compte sur la place publique de l'automne dernier, moi, je vois là-dedans la preuve d'une tension beaucoup plus profonde au sein de Québec solidaire entre les gens qui participent à cette aventure politique qui est QS, animée par le côté non conventionnel, c'est faire la politique autrement et la liberté que ces gens-là exigent de leur propre parti versus l'obligation politique de ce parti-là et de son establishment d'obtenir des résultats pour leurs membres. Parce que c'est le fun de militer, mais faut que tu trouves une façon de faire le pont entre les deux. Et je pense que jusqu'aux élections de 2018, et dans le cadre des élections de 2018 et des gains importants que Québec solidaire a fait, on avait réussi une première étape pour faire le pont entre ce qui était vu de manière caricaturale comme ce militantisme de gauche et l'impératif d'engager des gens à vouloir changer le monde, à vouloir changer les choses, puis les gains qu'ils ont eus. Puis là, c'est comme si, pour passer à la prochaine étape, comment tu fais pour élargir ce mouvement-là? Ben, c'est cette réponse-là, finalement, que Québec solidaire n'a pas, je crois. Et je pense qu'on en a la preuve par ses sorties bien publiques. L'une faite avec beaucoup de violence, l'autre, je pense, objectivement, celle d'Émilie Lessard-Terrien, avec beaucoup de, le plus de sensibilité et de délicatesse possible, mais tout en osant dire les vraies choses. Ça, est-ce que tu peux répondre à ça en 2 heures quand tu es sonné de venir d'apprendre la nouvelle? Je suis pas certaine, tu sais. Mais c'est sûr que Québec solidaire doit trouver une réponse à ça.
Au cours de la fin de semaine, Emmanuel, on a perdu un géant, Jean-Pierre Ferland, qui s'est éteint à l'âge de 89 ans. Et hasard de la vie, le lendemain, on nous présentait avec 6 ministres le plan du gouvernement pour sauver la langue française. Un plan d'action, là, plus de 600 millions sur 5 ans, ventilé en plusieurs mesures. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qui a été annoncé? Est-ce qu'on touche la cible?
Ce qu'on touche la cible, c'est on le saura dans 5, 6, 7 ans sur voir si le déclin du français a réussi à être amenuisé ou freiné. Moi, ce que j'aime dans ce plan-là, objectivement, c'est que il a plusieurs facettes. Et c'est pas pour rien, tu as 6 ministres autour de la table. C'était pas du PR qui soit. Tu sais, il y a une image forte là-dedans et il y a un message fort là-dedans à l'effet que la défense, la promotion du français au Québec n'est pas l'affaire d'un seul ministère et exige une action beaucoup plus large du gouvernement, mais aussi du reste de la société. Et c'est sûr que certains m'ont dit « Ah, oh, c'est du recyclage, serrer la vis aux universités anglophones, les nouvelles règles pour les immigrants francophones, on le savait déjà. » Mais c'est quand même des pas hyper importants, là, t'sais, qu'aucun autre gouvernement n'avait fait avant. Puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que j'ai entendu hier, c'est que finalement, on ajoute ce qui, dans mon esprit, était la couche manquante jusqu'ici, dans la cohérence de ce plan-là. C'est que si ton approche à la défense et à la promotion du français est strictement technocratique, règles d'affichage, application, faut que tu sois soumis à l'OQLF, quotas dans les universités, niveau 4, 5, 6 BE pour connaissance du français des immigrants, tu risques fondamentalement de faire du Québec une langue transactionnelle de l'espace public sans qu'elle ne devienne une langue commune. Et j'ai beaucoup aimé la phrase qu'a utilisée le ministre Robert. J'ai dit, c'est en français qu'on chante, c'est en français qu'on rêve, c'est en français qu'on rit, c'est en français qu'on exprime qui nous sommes. Et ça, donc, il faut amener la réflexion sur la défense française sur la base des référents culturels. Tu peux pas te sentir francophone si tu sais pas c'est qui Jean-Pierre Ferland. Tu sais, objectivement, je suis née en 1974. Je suis née après les plus grandes années de Jean-Pierre Ferland, mais mes parents l'écoutaient. Mais mieux que ça, en vérité, j'ai passé ma jeunesse dans la maison dans laquelle il a écrit son album Jaune.
Es-tu sérieux?
Vous imaginez? Oui, mes parents l'avaient acheté de lui. Puis il y avait un salon qui était jaune et qui est toujours resté jaune et qu'on a toujours appelé le salon jaune. Donc, Jean-Pierre Ferland, ça fait partie de mes souvenirs profonds d'enfance, mais tous mes amis, ça fait partie de leur... Il y a une partie de leur identité. Tout le monde connaît une chanson. Ça veut pas dire que tu te lèves à toutes les fins de semaine puis que tu écoutes Jean-Pierre Ferland, là. Mais je pense que ça incarne l'idée qu'il faut que cette culture-là, que cette langue-là soit plus qu'une langue transactionnelle. Puis moi, je trouve ça très intéressant. De un, le fait que le ministre Drainville s'attaque à l'idée d'intégrer cette culture francophone québécoise au curriculum, tu sais, parce que c'est vrai qu'il faut lire Madame Bovary puis tu sais Balzac puis apprendre les grands poèmes de Corneille, mais tu devrais aussi apprendre Émile Lélégant avant d'arriver au cégep, tu sais.
Tant
qu'à lire des pièces de théâtre, ben oui, je comprends qu'il faut lire L'Avare de Molière, mais tu peux lire Les Belles Sœurs aussi en secondaire 5 là. Et donc comment tu intègres ça, parce que c'est à l'école. Et si tu ne réussis pas au secondaire, auprès des enfants de la loi 101, à créer cette appartenance à la culture québécoise francophone, mais il est trop tard après. Tu as beau faire toutes les règles que tu veux, tu n'y arriveras pas. Donc, l'accent à l'école me semble important. Puis, cette espèce d'offensive de mettre en place les recommandations du groupe de travail qu'avait nommé Mathieu Lacombe pour forcer les plateformes à offrir finalement dans le menu principal d'accueil qui est le plus aisé moyen de découvrabilité, les produits québécois aux Québécois. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Donc, on veut s'inspirer de l'Europe. Est-ce que vraiment, légalement, le Québec est capable de le faire dans le cadre d'une fédération? Ces enjeux-là relèvent du fédéral. Tout ça est très complexe, mais au moins, il y a une volonté politique très forte d'élargir le débat sur la défense du français au-delà de la question des immigrants. Puis ça, quand on parle d'un réveil national, là, c'est essentiel parce que c'est pas juste eux, c'est nous aussi.
Très intéressant comme analyse. Merci beaucoup, Emmanuel.
Ça me fait plaisir. Au revoir.